C'est pas si souvent.
Elle sait qu'elle devra l'affronter. C'est inévitable. Seule avec lui pour 2 jours, peut-être 3. Le coup de l'arme à feu, osera-t-il à nouveau? Elle le soupçonne d'avoir cherché à la tester, à vérifier ce qu'elle avait dans le ventre, dans la tête. Il n'y aurait eu que lui, elle ne serait pas revenue. C'est uniquement pour madame. Elle frappe avant d'entrer dans la chambre mortuaire. Il est là. Où, sinon? Jamais ailleurs que devant sa vitre. Elle le salue, « Bonjour monsieur », il grogne, « Vous savez où me trouver, comment m'appeler, nouveau grognement ?» Apparemment, il lui fait la tête. Ça va être drôle, ces 2 jours en tête-à-tête, s'il l'a mauvaise. Elle hausse les épaules, quitte la pièce. Elle a des choses à préparer, à ranger, à nettoyer, de quoi s'occuper. La liste est longue, et puis surtout elle est curieuse. Elle aimerait découvrir une image, quelque chose, d'eux, avant. Il l'intrigue. À quoi ressemblaient-ils quand ils étaient jeunes, amoureux, entiers, heureux, s'ils l'ont jamais été? Elle ne repartira pas d'ici sans avoir trouvé quelque chose pour satisfaire cette vilaine curiosité qui la démange. Elle commence par l'étage. Le long de l'escalier, elle observe les gravures qui ornent les murs. Aucune photo, aucun portrait, pas le moindre indice. Elle pénètre dans ce qui fut la chambre du couple, enfin, elle l'imagine. Désormais, depuis longtemps, c'est exclusivement la chambre de madame. L'odeur poudrée de son parfum flotte partout dans la pièce, comme si elle était encore là. Prudente, elle ôte les draps du lit, ouvre la fenêtre en grand, s'approche de la coiffeuse. L'unique miroir de la maison. Madame le garde pour elle. Elle s'assoit sur le tabouret rembourré, s'imagine qu'elle est une dame, essaye la poudre, les fards, se penche sur le miroir, fait des mines sous sa coiffe de servante. Elle nettoie tout précipitamment, et si on la surprenait? Qui? Qu'il n'y a qu'elle et un estropié qui ne montera pas les marches. On ne sait jamais. Sa mère lui a enseigné la prudence. Elle range soigneusement les flacons, les boîtes, veille à les remettre à leur place exacte, referme la fenêtre, ramasse les draps, les plie hâtivement en une pile volumineuse. La buanderie l'attend. Elle visitera à nouveau la chambre et le reste quand le travail sera fait. Elle aura peut-être moins d'état d'âme. Il l'entend marcher au-dessus de sa tête. Cette bonne a beau être maigrichonne, son pas est aussi lourd que celui d'un artilleur. Il l'imagine là-haut, la suit, la piste. Elle fait le ménage au pas de charge, contourne pesamment les meubles, manque de les renverser, manie le balai comme une mitraillette. Il place d'abord cette soubrette de comédie dans le décor qu'il connaît de la chambre qui fut la sienne avant la guerre. Puis se ravise. La pièce a probablement changé. Alexandrine n'a sûrement pas conservé à l'identique la chambre qui avait abrité leur jeune bonheur. Lui déteste le changement. Il s'étonne de ne pas s'être posé la question auparavant. Cette curiosité nouvelle lui semble liée à l'absence de sa femme. C'est tellement inhabituel qu'elle ne soit pas là. Ça dérègle tout, y compris son rapport aux objets du quotidien. Savoir que celle qui marche là-haut est une quasi-inconnue l'intrigue et le dérange. Le voilà chamboulé. Il éprouve soudain l'envie inédite de sortir du salon et d'aller voir ailleurs de ses propres yeux ce qu'il s'y passe. Maniant de son mieux son fauteuil à roulettes, qui d'habitude ne fait qu'un trajet, du lit à la fenêtre et de la fenêtre au lit, il avance jusqu'à la double porte qui mène au couloir. L'ouvrir est une formalité, la passer, c'est autre chose. À force de bouger les roues dans un sens puis dans l'autre de son bras le plus valide, il parvient à franchir le seuil et se retrouve propulsé au bas de la cage d'escalier. Elle pousse un hurlement, lâche la pile de draps qui viennent s'écraser.